Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette soirée, dans nos studios de la rue de la Saline, nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir notre ami Francis Pornon. Francis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu. Alors Francis, la dernière fois que tu es venu, c'était pour nous parler de ton livre « Les Dames et les aventures du troubadour Ramon de Miraval ». Et tu récidives, si l'on peut dire, avec un deuxième tome de cette saga, hein, qui va en comporter trois, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et qui va s'appeler « La Dame de Toulouse ». Il s'agit de Azalaïs de Burlatz. Voilà, alors tu vas nous parler dans quelques instants donc de ce livre, de ce roman, hein, puisqu'on peut dire que c'est quand même un roman.
Ah oui, oui, tout à fait, c'est un roman historique.
Un roman historique. Mais auparavant, comme d'habitude, je vais faire une courte présentation d'un livre de poèmes. Il s'agit de Colette Elissalde. Alors Colette Elissalde, tu l'as connue peut-être par les poèmes qu'elle avait publiés chez Henri Ortebis dans les éditions multiples, dans la revue multiple. Et elle a un certain nombre d'ouvrages à son palmarès, dont Bouquet d'écume, qui avait été publié par les Dossiers d'Aquitaine à Bordeaux, dans les Dossiers d'Aquitaine, voilà, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, et ils avaient fait du bon travail quand même, à Bordeaux en 2005, Sable et silence, toujours dans les Dossiers d'Aquitaine, l'année suivante, et Une heure, une île, c'était à la librairie Galerie Racine à Paris, en 2008, puis Assez de bleu dans l'ombre, toujours à la librairie Galerie Racine à Paris, 2010, et enfin, elle a quand même publié à Toulouse, aux éditions N et B. En 2013, c'était Écorce du temps, et puis de nouveau en 2014, Ciel intime, à la librairie Galerie Racine. Et toujours à la librairie Galerie Racine, elle publie Bois flotté, avec une couverture, c'est une huile sur toile de Claude Gouillot, et une préface de Gilles Lade, que nous saluons, Gilles. Alors voici ce qu'il dit, elle est très courte, cette préface. Les poèmes de Bois flotté sont une célébration du bonheur, de l'ancien bonheur, à la lumière portée du deuil. De page en page se lit, se délie, la longue stupeur de la solitude, le traître engourdissement, lorsque abeilles et soleil ne font plus qu'un. Alentour, tout brille, brasille, comme au temps où l'émotion des amants accouchait du silence. Le chagrin révèle le plus intense et le plus poignant du passé, ce qui fut amour, les plus encore, comme s'il allait revivre. Je planterai au clocher mon nom, j'ajouterai un codicille, je reviendrai un jour, je te prendrai la main. Il y a une élévation dans le regard de celle qui mesure l'absence et la laisse résonner dans le silence. L'épreuve a centré les images, a défini les couleurs au plus juste, a doucement précipité le rythme des mots, car la vie est plus que jamais là, déliée, innombrable, surgissant rajeunie des saisons passées. Allons à la suite de Colette Elissalde, par-delà tous les bois flottés du destin, surprendre la feuille morte, caresse en semençant la terre, et il la cite là, Gilles Latte. Alors, il y a une petite explication quand même, c'est que Colette Elissalde a perdu récemment, d'abord elle a perdu sa mère, qui était centenaire, qui avait dépassé les 101 ans, et qui vivait, elle était très proche, elle est revenue, c'est un professeur, Colette Elissalde à la retraite, elle était revenue à Albi, justement, pour être près de sa mère. Et ensuite, elle a perdu son mari d'une longue maladie, comme on dit pudiquement, qu'il a emporté récemment. Et j'avoue qu'ils étaient tous les deux, c'était un couple très uni qui faisait les mêmes activités, qui venait ensemble, par exemple, à nos soirées de poésie. Et donc ça a été pour elle un choc, vraiment, du jour au lendemain. Elle s'est retrouvée donc face à la solitude et face à elle-même. Et ça donnait donc Bois flotté, ce recueil, donc publié à la librairie Galerie Racine. Il y a également sur notre site à la rubrique parution où nous signalons ce livre, il y a une critique de Bois flotté de Jean-Marie Corbusier. Je vous la lis parce qu'elle n'est pas très longue également. « Mourir donne du fruit, donne de la présence. Ne tenons-nous pas là l'essentiel de ce recueil, cette force à inventer l'ordre des choses pour nous les rendre à nouveau acceptées et acceptables, transformées en positif, telles que l'image de la feuille morte est la condition d'un possible ensemencement. Long chemin, certes, pour parvenir de l'un à l'autre, dans un langage simple et détendu, Colette Elissalde remonte le temps qui devient un futur, promesse d'autre chose, exigeant ce que l'on demande à soi pour grandir, vivre une fois encore, dans un ici, un ailleurs, cohabitant. » Dans ces mots perçants de vérité, il me semble retrouver l'évidence paysanne devant l'impossible à changer, mais qui, projeté en avant, peut redevenir signe de départ. Il s'agit d'une analyse sans détour, d'un état personnel qui refuse l'innocence, la rébellion. Ce qui sauve est cette proximité de ce qui vit, faune et flore, car la disparition de naître n'est pas la disparition de la vie. Ce qui vit, n'est-ce pas le prolongement de ce qui fut ? La force des images tirées des choses ordinaires et vues donne lumière à ces poèmes qui, en avant, en arrière, se lient dans un présent qui les dépasse. Beau lyrisme, contenu, maîtrisé, qui ne se lit qu'au travers de cette vie de tous les jours, belle, forte et toujours dirigée, au bout de laquelle la présence surgira. Bois flotté, qui emporte leurs souvenirs à la dérive, pour qu'il en reste quelque chose quelque part, recueil plus parlé qu'écrit, parce qu'il s'adresse à une personne. La nature y tient la place d'un baume, les mots justes soulagent, il émane une pureté de ce recueil, un hymne à la vie, symphonie de fraîcheur qui nous conduit à un certain bonheur. Donc ce bonheur, il est dégagé par cette aptitude quand même à dire les choses, c'est-à-dire en définitive cette aptitude qu'a l'artiste de pouvoir avec les mots prolonger la vie. On joue seul contre son ombre chaque jour, dans le chemin de ronces, l'horizon flottant vers ces déserts du tout possible. La feuille de l'orme a quitté la branche, elle est morte en dansant vers une terre promise, prenant le vent quelques instants, une fois encore, s'opposant sur le sol lentement, caresse, ensemençant la terre, quittant la route verte pour les tons verts de l'or. L'adoration est muette. Rouille et silence sont tombés avec la feuille. Bois flotté de Colette Elissalde avec cette préface de Gilles Lade aux éditions Galerie Racine. Là, vous coûtera 15 euros à lire. Eh bien, nous allons maintenant repartir dans l'époque des troubadours. Et je crois que pour avoir un petit peu l'ambiance de cette période, qui est une période saisissante quand même dans notre histoire, surtout dans l'histoire de notre Occitanie, nous allons commencer par écouter justement ce chant des troubadours qui est chanté par Gérard Zucchetto et publié à Vox Trova. On l'écoute. Oui, alors je disais, nous sommes dans l'époque des troubadours, époque essentielle pour l'Occitanie, parce que, tu vas nous en parler tout à l'heure, c'est l'essor de toute une civilisation qui est une civilisation rayonnante à ce moment-là en Europe, puisque Toulouse, par exemple, à cette époque-là, était, on peut dire, la deuxième ville d'Europe après Rome. C'est dire l'importance qu'avait cette civilisation. Et maintenant, nous allons écouter, si tu le veux bien, donc Gérard Zucchetto et Sandra Urtadoros, qu'elle nous pardonne, dans ce chant des troubadours. Voilà, donc c'était un extrait des chants des troubadours de Gérard Zucchetto, que je vous invite à vous procurer, parce que vraiment, ce sont des enregistrements d'une exceptionnelle qualité. Hein. Le travail de Gérard Zucchetto et de sa femme, c'est vraiment absolument remarquable, cette recherche sur ce qu'ont été justement ces chants de troubadours qui ont marqué quand même, parce que c'est eux qui symbolisent malgré tout toute cette période. C'est une période qui est une période de grande richesse de l'Occitanie, mais qui est symbolisée sur le plan culturel par les troubadours. Et vous trouverez sur notre site les-poètes.fr les références pour vous procurer ces disques, donc des troubadours. Alors, nous sommes maintenant dans le deuxième volet, donc il y en aura trois, hein, les dames et les aventures du troubadour Ramon de Miraval était le premier. La dame de Toulouse, là on retrouve toujours quand même au centre de cette préoccupation romanesque, l'image de la dame, hein, de la femme, avec Azalaïs de Burlatz. Alors, je pense que, si tu le veux bien, Francis, pour nom, je vais te demander de nous faire un petit brossage du temps de ce qui se passait à cette époque-là, c'est-à-dire quels sont les repères historiques dans lesquels s'inscrivent ces épisodes de la vie de Azalaïs de Burlatz.
Alors, pour faire un petit tableau des lieux et du temps, bon, les lieux, c'est simple, c'est ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'Occitanie, en gros. Mais ça déborde sur la partie du nord de l'Espagne, c'est-à-dire l'Aragon, en gros, et la Catalogne, qui étaient très liés. Le jeu politique et culturel fait que cet ensemble est un tout, en quelque sorte.
Pardon. Quand tu dis Occitanie, c'est plus vaste que la région d'Occitanie. Hein, c'est-à-dire, c'est l'Occitanie,
le sud de la France,
voilà, l'Occitanie, là où on parle l'Occitan.
Là où on parle l'Occitan, c'est l'Occitan, ça. Voilà. C'est-à-dire voilà. Jusqu'à Limoges, en gros.
Voilà,
hein.
Voilà.
Voilà. Alors, le temps, c'est le XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Une période où la civilisation sudiste ou occitane est extrêmement florissante pour des raisons diverses, notamment par suite des croisades où les comtes de Toulouse se sont accaparés pas mal de richesses, en hommes, en choses, en bijoux, en produits divers, etc., et en possessions qu'ils exploitaient. Et aussi pour des raisons internes, parce que les cultures sont assez florissantes, l'industrie aussi, enfin l'industrie artisanale, bien sûr, les mines, etc., etc. C'est le pays de Cocagne, hein, de Cucagno, de la Cucagno, c'est-à-dire le cocon de pastel, même si la grande période du pastel sera postérieure, mais il y a déjà du pastel.
Oui. Et les moulins.
Des moulins, hein. Etc., etc. Et puis, il y a aussi cette sorte de miracle culturel qui se produit, qui est la constitution de la fine amour, et c'est-à-dire l'amour courtois, qui introduit ou bien va avec l'introduction de nouveaux rapports sociaux entre l'homme et la femme, notamment. Alors naturellement, tout ceci se passe dans la noblesse, hein. Oui. Il faut être bien clair. De même d'ailleurs que plusieurs siècles plus tard, le libertinage ne concernera que la noblesse. Il faut attendre aujourd'hui pour voir les dames libérées dans le peuple. Hein. Encore que cette libération, elle est entre guillemets, parce que elle peut aller avec une grosse, pas un esclavage, mais enfin quelque chose d'assez difficile à assumer. Et donc, on a d'une part des troubadours qui composent, qui souvent se donnent en spectacle, chantent avec l'aide de jugglares, des jongleurs, ou même des jugglares, des jongleuses. Et les seigneurs les reçoivent. Ils ont pour mission, pour rôle, de les pourvoir en nourriture, de les loger, de leur offrir un cheval, un bouclier, une armure, etc., etc. Et il y a aussi des dames qui reçoivent les troubadours. Alors, bon, pour détendre un peu l'atmosphère, je vais dire qu'elles les payent parfois en nature, mais pas toujours. Et de toute façon, elles les hébergent aussi, elles les nourrissent, etc. Alors, j'ai voulu traiter après le troubadour Raymond de Miraval, qui est un troubadour d'abord très proche d'ici, puisqu'il est originaire de Carcassonne. Il a fréquenté le comte de Toulouse, notamment Raymond VI. J'ai voulu traiter une mécène de troubadour, Azalaïs, la fille du comte de Toulouse Raymond V et la sœur de Raymond VI, et qui est dite parfois Azalaïs de Burlat, parce que elle n'a pas résidé avec son époux, le vicomte Trincavel de Carcassonne, mais elle a résidé très souvent seule à Burlat, seule ou accompagnée à Burlat, tout près de Castres. Alors, tu veux me demander un panorama historique très vite. Alors, pour
les mœurs peut-être de l'époque, oui, aussi, pour voir ce que ces mœurs-là ont de tout à fait différent, pour pas dire révolutionnaire, par rapport à ce qui se passait. On est dans une période donc où cette région occitane est une région riche par rapport aux territoires du nord qui sont quand même nettement inférieurs à ce point de vue-là, sur le plan ne serait-ce que de la grandeur des territoires, de la richesse des territoires, sans parler de la vie culturelle qui est dans la nuit quand même, hein, par rapport à ce qui se passe en Occitanie. Et les mœurs sont donc les mœurs d'une grande brutalité à l'époque.
Bien sûr, il faut savoir que quand même...
L'idéal, c'était l'idéal guerrier.
Voilà, on est en plein Moyen-Âge, les seigneurs passent leur temps à faire la guerre, consommer les femmes de leur sérail, de leur harem, en quelque sorte. C'était le cas des comtes de Toulouse, hein. Les punitions sont d'une barbarie entière. Voilà, il y a aussi quand même très peu de confort malgré tout. On se tromperait à croire que on se trouve dans les salons du libertinage du XVIIIe siècle. Pas du tout. Les châteaux sont extrêmement spartiates. Hein. Il y a parfois des échelles pour monter d'un étage à l'autre, etc. Mais naît tout d'un coup une autre façon de vivre entre quelques privilégiés qui le vantent, qui le cultivent, qui tâchent de le propager. Donc c'est cet amour courtois qui est un amour respect, où la dame n'est pas considérée comme un moyen à consommer, mais comme presque supérieure même moralement, non seulement par sa beauté physique mais par sa beauté morale. Et l'homme doit mériter son affection grâce à son art et à sa capacité de la séduire par des chansons d'amour. Voilà.
Et peu après va naître le Guessaber aussi. Hein, par exemple, l'Académie des Jeux Floraux est née d'abord par les sept troubadours et ensuite en 1323. Donc, elle est aussi la conséquence directe de ce dont tu parles, hein, c'est-à-dire de cette civilisation.
On peut peut-être la considérer comme une résurgence, oui, après que la croisade ait énormément écrasé cette civilisation. et tuer des gens, en échasser d'autres.
Alors, la croisade, tu parles là, de la croisade des Albigeois.
De la croisade des Albigeois au début du XIIIe siècle.
Les Cathares,
voilà, voilà, du XIIIe siècle, qui s'est terminé au milieu du XIIIe siècle, à peu près, par l'annexion de ces régions par le roi de France.
Oui. Et d'ailleurs, Montségur, ce que l'on voit, le château de Montségur, c'est en définitive Saint-Louis qui l'a fait construire, hein, puisque le château, le castel de l'époque du siège a été totalement détruit. Alors, ce qu'il faut rappeler, parce que les gens qui vont à Montségur, en définitive, ils vont voir un château du roi de France. C'est pas un château cathare. Alors, revenons à Azalaïs de Burlatz. On l'appelle Dame de Toulouse. Alors, pourquoi Dame de Toulouse ?
Oh, c'était la fille du comte de Toulouse, hein. Donc, il y avait sa mère qui était la principale dame. Et puis...
Elle ne passe pas son enfance à Toulouse.
Ah si, hein? Oui, elle passe son enfance à Toulouse, tout à fait, au château, au castel Narbonnais.
Ah oui.
Et ce n'est que à partir du moment de la répudiation de sa mère que elle va la suivre jusqu'à Burlatz, où la mère va se réfugier chez un ami chevalier. Je cherche le nom de la mère. Oui, voilà, c'est Constance de France, sa mère, qui est répudiée assez rapidement, alors que Azalaïs a une dizaine d'années, au maximum, peut-être un peu moins, de souvenance. Et à partir de ce moment-là, elle va, comment dirais-je, prendre du recul par rapport à cette, à la cour du comte de Toulouse. Mais elle a quand même aussi assez peu fréquenté son père. Bon, à l'époque, là, Elisabeth Badinter a raison, même si elle n'a pas raison sur tous les points qu'elle défend à l'heure actuelle. Les parents, dans la noblesse, les parents n'élevaient pas leurs enfants, c'est connu. La mère l'a donnée à une nourrice et à des servantes, et le père était constamment parti, le comte de Toulouse, entre ses possessions dans la vallée du Rhône. Et toutes celles autour de Toulouse, il était constamment en train de...
Oui, d'aller d'une ville à l'autre. Oui.
Voilà.
À Saint-Gilles, par exemple, où il séjournait assez souvent.
Hein. Voilà.
Et elle a passé son enfance donc dans ce qu'on appelle le château Narbonnais. Elle sortait peu, c'est ça, pendant
son enfance. Sortait très peu au début, parce que au début, à sa naissance et durant ses premières années, Toulouse est assiégée par le roi d'Angleterre, par Richard, le roi d'Angleterre, et donc elle reste confinée dans le castel. Où elle peut voir le comportement des dames, le comportement des chevaliers, deviner un peu la guerre qui fait rage tout autour, et rencontrer celui qui deviendra plus tard son amant, qui est un ami d'enfance, plus âgé qu'elle, qui s'en occupe, qui est une sorte de grand frère, qui lui apprend un peu, avec lequel elle fait son apprentissage sentimental, en quelque sorte. Et aussi, comme il est amateur des troubadours, il lui fait découvrir ses premiers vers de différents troubadours.
Donc là est né certainement cet engouement qu'elle a eu toute sa vie pour...
Voilà. Alors, c'était aussi le rôle des dames. Hein, si on veut, les troubadours, c'est l'amour, la poésie courtoise, c'est le grand phénomène culturel de l'époque, avec de la musique, mais enfin, là, on allie la musique aussi. Et il se trouve que dans les châteaux, on aimait bien recevoir les troubadours. Non seulement pour avoir des concerts, mais aussi parce que cela faisait rebondir la renommée
de la cour,
de ceux qui recevaient les troubadours. Oui. Et ce qui fait que les seigneurs, paradoxalement, parfois hébergeaient un troubadour qui pouvait être l'amant de la dame, même si les rapports de couple n'étaient pas ceux qu'on a pu connaître par la suite, récemment. Oui. Les mariages étaient des mariages politiques, des unions politiques. Oui. Mais bon, il faut comprendre ça pour comprendre le fonctionnement de l'époque. Oui.
Alors, si tu veux bien, je vais te demander de nous lire un extrait de ce roman, La Dame de Toulouse. Avant, je voudrais te dire, j'ai été frappé par cette langue extraordinairement classique dans ce roman. Donc, c'est toujours très alerte, mais on sent qu'il y a un travail sur la langue, sur la construction des phrases, etc. Dans le sens de vraiment de quelque chose de une espèce de perfection que tu aurais cherché dans la langue. Enfin, on sent qu'il y a un gros travail qui fait que c'est à la fois terriblement alerte, c'est-à-dire que le récit se lit avec jubilation, ce qui est normal pour un roman, mais en même temps il y a une pureté de la langue et un classicisme de la langue qui m'a un peu étonné, mais qui est très agréable, hein, qui est au contraire, qui est un peu le couronnement. Donc je me suis dit, Francis, là il a beaucoup travaillé certainement.
C'est clair que si on lit un de mes polars, ce n'est pas la même langue. Hein. Voilà, alors, il y avait un désir. Moi, je peux parler simplement de mon désir. Je peux pas parler du résultat parce que c'est pas à moi de le juger. Et c'est très difficile d'ailleurs de se juger soi-même en matière d'écriture. Mais il y a le désir d'écrire cela un petit peu comme aurait pu l'écrire la locutrice, puisque là, c'est une pseudo-autobiographie. Oui. D'Azalaïs qui compte sa vie. Il est clair, bon, d'abord, elle l'aurait fait en occitan, si le roman avait existé.
Ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'à cette époque-là, la langue courante était l'occitan, qui était une langue noble.
Voilà. Ce qui explique d'ailleurs que le récit était maillé parfois de mots occitans. Mais, le propos était d'écrire en français, puisque les lecteurs lisent le français. Et donc, j'ai essayé, oui, tu parles de classicisme. Moi, j'ai essayé de rechercher un certain archaïsme, mais l'archaïsme, ça serait illisible, quasiment.
Oui. Et puis artificiel. Essayer
de lire du vieux français, c'est très difficile. Oui. En plus, ça serait tout à fait artificiel. Il y a eu des tentatives, hein. Il y a eu, par exemple, Robert Merle qui a écrit Fortune de France, je crois. Bon, c'est intéressant de voir cette écriture, pas toujours peut-être très réussie, parfois oui. Et donc, j'ai laissé couler ma plume et ça a donné cette écriture quand même un petit peu relevée, sans doute. Mais que j'ai voulu alerte, comme tu dis, je te remercie de ce qualificatif, c'est-à-dire assez coulante, quoi. Avec naturellement beaucoup de références et de renvois aux choses de l'époque, parce qu'il faut aussi quand même essayer de réussir une certaine crédibilité, hein, une certaine véracité. En s'instruisant sur les coutumes, je me suis beaucoup renseigné sur les femmes, sur leurs toilettes, leurs vêtements, etc., etc.
Alors, cette élégance de la langue, je trouve qu'elle va très bien avec, c'est vrai que, comme tu l'as rappelé, avec Azalaïs de Burlatz qui fait ce récit, donc ça va bien, cette élégance de la langue va avec l'élégance du personnage aussi. Hein. C'est cette élégance, il y a quelque chose de féminin un peu dans le raffinement de la langue que tu emploies, hein, peut-être inconsciemment.
Mais en se mettant dans la...
L'éditeur m'a fait un compliment. Il m'a dit, vous avez réussi à vous couler dans la personnalité d'Azalaïs.
Oui, oui.
Bon,
oui.
Alors j'en sais rien. En tout cas, c'est son, sa perception, et c'est
oui,
tant
oui,
mieux.
Oui, tout à fait.
Et
oui.
C'est un compliment.
Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous lire? Quel passage?
Eh bien, j'ai choisi tout simplement de lire un extrait ou des extraits du chapitre 1. J'ai laissé un petit peu le préambule.
Oui.
Voilà. Je naquis en un bel an de grâce, en plein mi-temps du siècle XIIe après la naissance de Nostre Seigne. On rapporte que si ma famille voulut me prénommer Azalaïs, ainsi que le sont d'autres belles dames du Languedoc, ce fut au dit d'une bonne fée. En se penchant sur mon berceau, celle-ci vit que le hasard m'avait faite très brune, la chevelure presque noire, alors que ma mère était toute blonde et mon père châtain clair. De plus, mes yeux luisaient d'une teinte inhabituelle, non point celle des prunelles parentales marron et bleu, mais celle des violettes. Alors la fée s'écria, « Oh, quel hasard ! Elle sera bénie !» Hasard, A-Z-A-R, et le hasard en langue nôtre, la langue de notre midi où roulent les airs comme les torrents de montagne. Depuis ce hasard, d'un bébé femelle ne tenant point en apparence de ses parents, jusqu'à mon prénom, il n'y avait qu'un pas, vite franchi par Raymond V, mon géniteur. L'enfant se prénommera Azalaïs. Ainsi décréta le comte de Toulouse, d'un ton sentencieux, en brandissant son sceptre recouvert d'émeraudes d'Orient, et avant d'éclater de son rire tonitruant. Aussitôt, les salles et couloirs du castel résonnèrent de mon prénom, chuchoté par les femmes ou claironné par les valets, si bien que l'on avait, paraît-il, l'impression que passait en vrombissant un essaim d'abeilles, mais sans savoir s'il était menaçant ou bénéfique. Ainsi, à ce qu'on dit du moins, ce jour de ma naissance fut un jour de soucis et de joie. Faisait-on contre mauvaise fortune bon cœur? Une petite fille, c'est peu de chose à la cour. Il fallait bien pourtant que l'on me prît tel que j'étais. D'après le mot de ma mère Constance de France, j'étais un beau bébé. En apercevant entre les petites cuisses potelées la mignonne fente qui marquait mon genre, elle en fut ravie, car elle avait déjà donné le jour à deux garçons, Raymond et Albéric, lesquels seraient assez les héritiers du comté et de ses fiefs. De plus, elle semblait circonspecte devant l'orgueil masculin. Les mâles s'enorgueillissent d'un petit appendice qui ne vaut peut-être pas un si grand intérêt. Ceci soit dit sans haine pour le genre masculin, car je suis assez tôt comme on peut être comblé du cadeau qu'il nous offre en certaines situations. On doit sans doute louer le Seigne qui nous fait mère d'un mignon petit enfant. Pourtant, ce cadeau n'est, comme on sait, possible qu'à une seule condition, avoir reçu l'hommage d'un homme.
Alors, il y a dans les citations que tu as mis en exergue de ce livre, une de Jacques Lacan, qui vient d'un séminaire des années 60, hein, où il dit, en parlant de l'amour courtois, « C'est un amour hors mariage, prude sinon chaste, et totalement désintéressé, mais non platonique, et ancré dans les sens et le corps autant que l'esprit et l'âme. » Je crois que ça résume bien un petit peu ce qu'est vraiment l'amour courtois. Tu as bien dit ça tout à l'heure, en définitive.
Voilà. Hein. Oui. Et ça rétablit les choses, parce qu'il y a un contresens extrêmement répandu, c'est de confondre l'amour courtois avec l'amour dit platonique.
Platonique, oui.
Certes, ouais. Certains troubadours ont pu, surtout vers la fin, être très influencés par la conception d'un amour uniquement
idéalisé,
idéal,
oui,
d'inspiration chrétienne.
Oui, oui.
Mais c'est quand même assez clair, oui, notamment chez Raymond de Miraval, et René Nelly, le critique, l'a bien compris.
Oui, oui,
il a dit, l'acte sans amour est absurde, mais l'amour sans acte l'est tout autant.
Ça. Oui. Voilà. C'est ça, c'est exactement le ça. Dans le sens est le corps autant que l'esprit est l'âme.
Voilà.
Donc c'est la réunion en définitive et la réconciliation un peu des deux. Ce serait ça.
Les travaux de Lacan, que je connais mal, très mal même, ont, paraît-il, beaucoup rétabli une connaissance et une appréciation de l'amour courtois. C'est pour cela que, et surtout aussi pour éviter le contresens commun,
oui.
Que j'ai tenu
à mettre cette phrase en exergue.
En exergue, voilà.
Il reste 4 minutes, Francis. Est-ce que dans ces 4 minutes, j'aimerais bien que l'on écoute justement cette prose alerte et ne pas oublier que c'est un roman, donc il se lit en roman, il y a une histoire. Cette histoire, on ne l'a pas révélée, mais c'est sciemment parce que on veut laisser ce plaisir quand même au lecteur. Et on va écouter un bout de cette histoire, si tu le veux bien.
Si j'en juge après les décennies passées, peines et joies vécues au fil du temps, une chose était primordiale, l'amour. Alors, après ce qu'on a nommé la longue nuit des siècles, on vivait une aurore nouvelle. C'était en même temps que la barbarie, une époque radieuse, où certaines dames et jouvencelles désiraient être bien aimées. Elles recherchaient une nouvelle espèce d'homme, poètes raffinés et respectueux de ce qu'elles étaient. La plupart, bien sûr, devaient se résigner au triste sort auquel les vouait leur rang, celui d'être mariés pour raison d'état avec un inconnu. C'était le cas de ma mère. Mariée d'abord avec Eustache de Boulogne, elle devint veuve et fut mariée en seconde noce à Raymond V, mon père, le comte de Toulouse. Les aperçus et les échos du siège au dehors, une guerre larvée coupée de quelques escarmouches, n'empêchaient les dames de se vêtir dans le castel à leur propre convenance, et aussi dans l'espoir que cela convînt aux hommes. Certaines jeunes concubines du comte, ou seulement prétendantes, osaient un bliot soyeux fendu sur une chemise également fendue, afin de laisser apercevoir la finesse de la taille et le grain de la peau. Je dois dire qu'à mon âge tendre, je n'y voyais malice. En vérité, Constance n'était de ces femmes qui voulaient le plus changer leurs conditions. Combien de fois la vis-je s'abstenant de répondre lorsque mon père laissait tomber quelques sentences définitives dont il avait le secret. Sa résistance à elle, à la toute-puissance du Seigneur, c'était de persister dans ses desseins. Pourtant, autour de nous, à la cour du comte même, certaines dames ne voulaient plus se contenter d'être de riches et brillantes servantes. Elles désiraient bien sûr être belles, mais avant tout devenir des maîtresses, priées et adulées, en fait des femmes libres d'aimer selon leur choix. Ainsi, je côtoyais certaines que j'appréciais qui me guidèrent. J'allais rencontrer par la suite la poétesse Azalaïs de Porcairag, laquelle était dite Trobaïrite en langue neutre. Elle savait chanter l'amour d'un homme en cette langue de rocaille et de soleil, courant de l'océan jusqu'à la mer, par-dessus les montagnes. Cet idiome qui portait la musique et la parole des poètes depuis le fleuve Loire jusqu'à l'Èbre et au Tibre et s'envolait vers les brillantes cours de Londres, de Rome et d'Aix-la-Chapelle, comme celle de Barcelone et de Saragosse. Amic, aïe des grands balours, que s'ouvre tout signoreggio. J'ai amis de grande valeur, tous les autres dominants. Je traduis donc en la langue du trouvère chrétien de Troyes, le parler dit Doyle, autrement dit langue des Francs. Cet idiome en lequel trouva ce poète à l'exemple des troubadours, c'était aussi celui de ma mère Constance, élevé à la cour de France. Ce qui me permet de m'exprimer aussi bien en l'une ou en l'autre, la langue maternelle et la langue paternelle. N'en déplaise à certains, ce n'était point faiblesse féminine que de reconnaître la grande valeur de l'aimer. Au contraire, ce chant composé par une troubaïrite, composé par toutes les et colporté par toutes les terres, voisines ou éloignées, cela disait aussi la force de la dame. Être capable de goûter le trouba est déjà de grande valeur, savoir trouver en est une plus grande encore, et assumer son être de femme, voilà une grande affaire.
Très bien, merci beaucoup Francis. Là on voit que Azalaïs de Berlat c'était donc bilingue, hein, c'est-à-dire manipuler aussi bien la langue des Francs, le français et l'occitan. Alors nous rappelons La Dame de Toulouse, sous-titre Azalaïs de Berlat, c'est aux éditions Théodée.
Hein. Voilà, et ce roman sera présenté pour la première fois
le mercredi
à l'Hostal d'Occitanie, la maison d'Occitanie, mercredi prochain, 8 mars, journée de la femme. Et nous aurons
à 18h.
À 18h30.
D'accord.
Avec la collaboration de Marine Mazars, qui est une médiéviste à l'Université du Mirail, et de toi-même, Christian Saint-Paul.
C'est avec grand plaisir. Donc rendez-vous à nos auditeurs le mercredi 8 mars. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous nous disons à la semaine prochaine à 10h.